Paolo Maldini, la grande classe à l'italienne au Paris Saint-Germain. C'est la rumeur qui enfle depuis quelques temps. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Central. C'est un plaisir d'être avec vous et je suis avec Tonton. Tonton, qu'en penses-tu?
Bah, une rumeur qui arrive un peu de manière inattendue, même si ça en parlait sur les réseaux, en tout cas depuis quelques mois. Moi, il y a une question que je me pose et du coup, je te la pose à toi. Si Maldini vient à Paris, est-ce que c'est pour faire contre-pouvoir à Campos ou pour le remplacer?
Quand on prend les dernières déclarations de Nasser sur le cas Campos, et quand on voit la dimension sportive qu'est en train de prendre le Paris Saint-Germain actuellement, avec, comme je le disais la dernière fois, un projet jeune, à l'image de ce qui se fait en Europe, pas avec le même type de joueurs, parce que quand tu prends le cas de Madrid, ils prennent les cracks d'Europe. Paris, ils prennent les joueurs qu'ils peuvent prendre, mais de joueurs à fort potentiel. Et c'est ce qui se fait globalement en Europe aujourd'hui. Parce qu'on le voit, le football devient de plus en plus physique. Et donc les joueurs sont cramés beaucoup plus rapidement, qu'on le veuille ou non. Et ça va commencer à se développer au fil du temps. Tu as certains postes, comme le poste de défenseur et d'attaquant, où là, tu as moins d'efforts physiques à faire au cours du match, où tu peux tenir globalement jusqu'à 35, 36 ans, beaucoup plus âgé qu'à l'accoutumée. Mais tu as un autre poste. Et pour moi, le poste le plus important dans le football, qui est le milieu de terrain. Et tu vois que les joueurs sont davantage cramés. Donc, c'est ça, c'est pour faire un petit aparté sur ma vision du truc par rapport au fait qu'ils rajeunissent les effectifs globalement. Mais c'est le sujet d'une vidéo qu'on tournera plus tard. Et en fait, bah, quand tu te rends compte de ça, aujourd'hui, quels sont les directeurs sportifs, bon là, on parle de conseillers sportifs, qui ont les meilleurs portefeuilles? Il y en a pas mal, mais Campos fait partie du haut du panier. Et on l'a vu, la déclaration de Nasser. Nasser, il dit qu'il est souvent avec Campos au téléphone et que Campos travaille beaucoup avec Nasser, etc. Et que le club est content de lui. Ça peut s'entendre, même si il y a certaines réticences, mais ça peut s'entendre au vu du mercato actuel. Même si, voilà, c'est pas un truc de ouf. Et quand tu prends le cas de Paolo Maldini, tu vois ce qu'il a fait au Milan lorsqu'il est devenu directeur sportif. Bah, tu peux te dire que Campos continuerait dans son travail de conseiller sportif, donc il conseillerait des jeunes joueurs à fort potentiel, et que lui, le directeur sportif, irait soit chercher les top players, type Bernardo Silva, type Harry Kane, type tous les autres noms potentiellement sur le marché des transferts, et valider les pistes de Campos. Maintenant, le truc, c'est que là, on parle d'un triparti, voire quadriparti, parce qu'on parle d'abord du prisme du directeur sportif, qui lui donnerait son veto ou non sur les recrues qu'on proposerait. On parle d'un parti qui s'appelle Luis Campos, qui pourrait potentiellement proposer aussi les top players qui font partie de son portefeuille qu'il a pu avoir au cours de cette carrière. Par exemple, je prends l'exemple de Léao. Lorsque Léao part à Milan, c'est pas un top player. Aujourd'hui, Léao est un top player, Bernardo Silva et autres. Donc, il a ces joueurs-là dans son portefeuille, Osimhen, etc. Et ensuite, les pépites. Qui ramènerait type Kangin Lee, etc., tu vois, ou type Léao lorsqu'il arrive au LOSC. Donc, ce genre de pépites-là, qui devront être validées par la direction sportive. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a encore deux parties. Il y a le parti de l'entraîneur, parce qu'on sait que le club voulait mettre en place un manager général. Donc, il faudrait que l'entraîneur aussi valide ces pistes-là, qui propose aussi certaines pistes qui pourront être validées par ces deux parties-là. Et il y a un dernier parti. Parce qu'au Paris Saint-Germain, on oublie souvent que le troisième parti. Et ce parti-là existe notamment à Madrid avec Florentino Pérez, notamment, etc., dans plein de clubs, avec Todd Boehly à Chelsea actuellement. Le dernier parti, c'est la direction du club. Et donc, on va viser plutôt le Qatar, Doha. Et même dans cette direction-là, il y a deux parties. Tu as le parti qui va être PSG, l'entité PSG de la direction sportive, et l'entité Doha de la direction sportive. Donc, ça fait cinq parties au final. Est-ce que ces cinq parties sont prêtes à travailler ensemble? Si toutes les planètes s'alignent, moi, je pense que oui. Maintenant, est-ce que les planètes vont s'aligner? C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il y a l'ego qui va rentrer en compte. Il y a la dalle de certains noms. Donc voilà, je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec moi sur cette vision-là. C'est vrai que j'ai envie d'y croire, mais je me dis, on est le Paris Saint-Germain, je connais.
Bah justement, comme tu le soulignes bien, l'avantage de la position de Campos, c'est qu'il ne s'est pas présenté comme un directeur sportif, mais comme un conseiller sportif. Et on sait que justement, sa situation, elle n'est pas claire parce qu'il travaille aussi avec le Celta Vigo. Donc le fait d'avoir Maldini, ça te permettrait bah, d'avoir un vrai directeur sportif fixe stable et fiable pour le Paris Saint-Germain. Et ça pourrait te permettre, comme tu l'as dit très bien, d'avoir une cohabitation entre Campos et Maldini. Est-ce qu'elle se passera bien? Là est toute la question. En effet, il faudra arriver à ce que les planètes s'alignent déjà entre les deux. Si tu rajoutes à ça, en plus, Luis Enrique qui aura forcément son mot à dire, parce que c'est lui l'entraîneur de l'équipe et c'est lui qui la manage tous les jours. Tu rajoutes Nasser et l'émir qui sont d'autres parties au sein du club. Forcément, c'est vrai que tout ça peut porter à avoir des inquiétudes. Mais dans la logique, comme tu l'as bien rappelé, Campos, il n'est pas directeur sportif. Donc, du coup, Maldini pourrait tout à fait prendre cette place en soi. Mais du coup, en soi, Maldini, l'avantage aussi, c'est qu'il a un certain carnet. Et du coup, comme je sais que
C'est ça
toi,
que j'allais dire justement.
je sais que tu aimes bien suivre l'AC Milan, j'allais te
Voilà.
poser la question. Tu peux me rappeler
Tu
un
me
peu
connais
les joueurs
bien.
qu'il a fait venir, Maldini, à Milan déjà?
Tu me connais bien. J'aime beaucoup l'AC Milan. Après, je suis pas supporter de ce club-là, mais j'aime beaucoup l'institution que représente l'AC Milan et puis surtout la Serie A que j'aime suivre. Alors, rétrospective sur le cas Maldini. Maldini, lorsqu'il prend sa retraite, il intègre un peu à la Zidane. Quelques années plus tard, comme Zidane l'a fait, il tourne un peu dans tous les aspects du club. D'abord, il est comme le sont Maxwell, etc., ambassadeur du club. Ensuite, il rentre un peu plus dans la direction. Il tourne un peu à droite, à gauche, etc. Alors, pour comprendre qui est Paolo Maldini, il faut comprendre ce qu'il y avait juste avant lui. En fait, il faut savoir que juste avant lui, il y a un directeur sportif qu'on connaît bien, qui s'appelle Leonardo. Leonardo, il retourne au Milan suite à son coup d'épaule. À Paris. Il est suspendu, puis quelques années plus tard, il me semble, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 ans après, il repart à. Non, même plus tard, un peu plus tard, il part au Milan AC. Maldini, pour comprendre un peu. Maldini, pardon. Leonardo, pour comprendre un peu ce qui s'est passé à Milan, faut savoir que Maldini à Milan était beaucoup décrié lors de son deuxième passage. Par les supporters, par le club, où le projet n'avançait pas, par le nouvel actionnaire. Qui est arrivé. Donc le projet n'avançait pas et c'est vrai qu'il était pas mal décrié. Du coup, le Milan AC accepte de s'en séparer. Leonardo atterrit au Paris Saint-Germain. Et c'est là que, du coup, le Milan AC tente un pari fou. Ils prennent un ancien de leur club et qui a fait un peu le tour de la direction, comme Zidane l'a fait. Et ils mettent Paolo Maldini en tant que directeur sportif. Et c'est vrai que. Moi, je me rappelle, je voyais les commentaires des supporters du Milan AC. Il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui étaient contents d'avoir un ancien. Ça reste quand même Maldini, avec tout l'aura qu'on lui connaît, avec tout le palmarès, avec pour certaines personnes et même pour moi, le plus grand défenseur de l'histoire, à mon avis. Même si voilà, il y en a d'autres qui rentrent en ligne de compte, mais pour moi, c'est lui. Et donc, qui ramène tout ça, tout ce savoir-faire-là, sportif, à la direction sportive. Mais d'un côté aussi, tu avais certaines personnes qui disent, mais il n'est pas qualifié, il a jamais eu ce poste-là, quitte de son portefeuille, etc. Et en fait, il a fait taire tout ce qui pouvait être fait taire, en fait. Parce que je vous rappelle que lorsqu'il arrive, Maldini, c'est quelques mois avant le Covid. Et Maldini, à la tête du Milan AC, c'est Mike Maignan, c'est Tonali, c'est Zlatan, le retour de Zlatan, c'est Raphaël Leao. On avait un doute avant la vidéo, donc à vérifier, mais il me semble que Bennacer, je crois que c'est tonton qui a soufflé le nom, mais on avait un doute. On va dire Bennacer, même si on n'est pas sûr. Kaloulou, etc. C'est-à-dire que tu prends juste le cas de Donnarumma. Donnarumma part au Milan AC libre, et derrière, il le remplace par Mike Maignan. Et quand tu regardes ça, aujourd'hui, le Milan rentre dans l'équation de son passé historique. Ils ont pris le Scudetto la saison dernière, et ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire que Maldini, grâce à son savoir-faire, il a remis le Milan AC à la place qu'il méritait. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Non, soit Maldini, comme tu l'as dit, il est arrivé à un moment charnière pour l'AC Milan. Bon, c'était pas la saison dernière, c'était il y a maintenant 2 ans, mais le temps passe vite. Mais oui, l'AC Milan a été champion d'Italie avec Maldini comme directeur sportif. Et j'ai même envie d'ajouter un nom que tu avais oublié dans ta petite liste, un certain Théo Hernandez qui est allé débusquer au
Ouais,
Real
clairement, ouais.
Madrid, qui était complètement à relancer au moment où tu vas le chercher, qui était au fond de la cave. Et il a même terminé une de ses saisons, je ne sais plus laquelle, je vous invite à vérifier, mais une des saisons, Théo Hernandez a été le meilleur buteur de l'AC Milan en championnat alors qu'il était arrière-gauche. C'est assez incroyable. Donc, il sait attirer les joueurs qui vont exploser, un peu comme Campos avant qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Mais moi, la dernière question que je vais te poser avant qu'on clôt le sujet, et là, je pense que tu vas me voir venir, de la même manière qu'on s'est demandé si Campos arriverait à mettre en place son réseau à Paris, est-ce que Paolo Maldini, selon toi, il arriverait à pouvoir faire le genre de transfert qu'il a fait à l'AC Milan aussi du côté du Paris Saint-Germain?
Le contexte est différent. Le contexte est différent. D'abord, avant même de parler de tout ce qui est direction, etc., patati patata, il y a une chose qui ne me trompe pas. Le Milan AC est un club légendaire. Le Paris Saint-Germain est en Grande Europe actuelle. Ça change tout. Déjà, en termes de nom, tu as plus de facilité à attirer les joueurs. La deuxième chose, c'est la différence de ligue. Tu as la Serie A et la Ligue 1. La Serie A attire plus que la Ligue 1. C'est une réalité. La preuve, lorsque Vlahovic est mis sur le marché des transferts à l'époque par la Fiorentina, je crois que le Paris Saint-Germain se positionne sur le joueur. Le joueur, directement, il choisit la Juventus. Alors que, qu'on le veuille ou non, lorsque Vlahovic arrive à Juventus, quel était le plus important pour lui? Pour moi, ça aurait été de venir à Paris. Il avait un meilleur projet sportif, il avait une meilleure équipe. Et en plus, il avait une place attitrée vu que le club voulait se débarrasser d'Icardi. Donc il avait une place attitrée. Pourtant, il choisit la Juventus. Pourquoi? Parce que ça reste un grand d'Europe, ça reste un grand club. Et puis surtout, il y a la Serie A. Et puis la dernière chose, pour moi, c'est la direction. Est-ce que la direction, parce que, comme je l'ai dit, il y a l'ego qui rentre en compte. Et on sait que le Paris Saint-Germain, notre direction est très impulsive. On le voit aujourd'hui, on a un projet qui est un peu plus jeune, mais à tout moment, tu peux avoir un membre de la direction qui pète un câble et qui dit hey, moi, c'est bon là, vos joueurs à fort potentiel là, j'en veux plus. Ramenez-moi du Rodri, ramenez-moi du Bernardo Silva, ramenez-moi du Haaland, ramenez-moi les meilleurs joueurs du monde. Alors que t'as pas forcément les moyens de le faire et la capacité de les attirer en termes d'attractivité, tu vois. Mais au final, la direction est très impulsive. Est-ce que la direction sera patiente avec lui? Ça aussi, c'est un autre sujet. Maintenant, est-ce que moi, je pense que Maldini a la possibilité d'attirer ces joueurs-là? Pour moi, on parle de championnat, on parle de Ligue 1, mais pour moi, le plus important, c'est d'avoir une institution forte pour pouvoir attirer ces joueurs-là. Il faut que les joueurs, lorsqu'ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils se disent, bon, ok, quels sont les malus? Ok, le championnat. Ok, vas-y, ces dernières années, ils sont pas allés très loin en Ligue des Champions. Ok, d'accord. Quels sont les bonus? Salaire? Ok, d'accord, salaire, tu l'auras. Mais le vrai bonus avant le salaire, c'est quoi? Le projet sportif. Est-ce que le Paris Saint-Germain sera prêt à me développer? Parce que c'est de ça qu'on parle. Quand tu prends Théo Hernandez, que tu veux ou non, ce n'est pas un joueur finalisé. C'est du développement. Raphaël Léao, c'est pareil. Est-ce que le Paris Saint-Germain a la capacité de me développer pour que demain, je puisse devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et prouver la plénitude de mon talent? C'est sur ça qu'il faut miser. Et ça, je pense que le Paris Saint-Germain a la capacité de le mettre en place.
Non, pour conclure, oui, justement, j'allais dire le poids du nom aussi. Je pense que ça va l'aider le fait qu'il ait Paolo Maldini. Ben, si Paolo Maldini t'appelle demain au téléphone et il te dit je te veux dans mon club et c'est le Paris Saint-Germain et je te veux dans mon projet, ben, ça change quand même beaucoup de choses. Je veux dire, Paolo Maldini, c'est l'idole de beaucoup de gens. Je pense, tu vois, genre, si tu veux chercher des joueurs de Serie A qui ont un fort potentiel, ben, recruter Maldini, ça peut être une bonne idée. Je sais que cet été, il y a eu des rumeurs de Vlahovic, des rumeurs de Osimhen, il y a eu des rumeurs de Barella. Ben, ces joueurs-là, si tu veux les attirer, ben, peut-être que si tu as une légende de la Serie A, ça va te faciliter la tâche en tout cas. Mais maintenant qu'on a bien développé le sujet, toi et moi, j'allais justement demander aux gens qui regardent cette vidéo maintenant, l'espace commentaire est à vous, c'est votre moment. Qu'est-ce que vous pensez de la rumeur Paolo Maldini au Paris Saint-Germain, bonne idée ou encore un nom qui est recruté, tout comme Patrick Kluivert, par exemple, on aurait pu faire l'analogie. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce pour nous aider à référencer la vidéo, parce que si vous la regardez sans mettre de pouce, ça veut dire que ce qu'on fait, bah, c'est pas bien et c'est pas cool. Et surtout, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir un maximum de contenu PSG prêt à sortir très rapidement. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, ici c'est Barry, mais
Ici,
c'est
c'est
surtout Paris.
Paris. Ouh, 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 ouh.